On retrouve maintenant Maud Massica, qui est directrice de Défis sans limites, un organisme qui est membre de la table de groupe des femmes de Montréal. Bonjour, Maud.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, merci. On parle avec vous, entre autres, évidemment, là, pour parler de vos organismes, mais aussi pour parler de la table des groupes des femmes de Montréal qui vient de sortir un nouveau rapport.
Oui. On vient de sortir un rapport de mobilité chez les femmes en situation de handicap, donc embarquez avec nous.
Parlez-moi d'abord là, de Défis sans limites, qui est votre organisme. Quel service vous offrez?
Nous, on offre des services d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap physique qui sont semi-autonomes, donc à partir de 18 ans, et qui souhaitent faire des activités sociales en soirée et la semaine et la fin de semaine. Et on offre des accompagnateurs pour leur permettre de pallier à leur difficulté motrice également.
Et je le disais tout à l'heure, là, vous êtes donc membre de la table des groupes des femmes de Montréal. Parlez-moi de l'organisme.
La table des groupes de femmes, ben, on est membre depuis à peu près 2 ans, puis on siège sur le comité mobilité. Donc, cette table va représenter les femmes dans différents contextes, même régionales également.
Donc, c'est des militantes, en fait, un regroupement d'organismes militants là, pour les droits des femmes en situation de handicap. C'est ce que je comprends?
Non. Dans le fond, ils vont représenter tous les femmes.
Oui, OK, d'accord.
Donc, ils vont défendre les droits des femmes dans une perspective féministe et intersectionnelle. Donc, et ils vont travailler tout pour le Grand Montréal et aussi en collaboration avec les autres régions aussi.
Voilà. Je le disais tout à l'heure, donc un nouveau rapport qui est sorti en fait dénonce la situation là pour les femmes dans Montréal, comme quoi Montréal est dangereux en fait là, pour les femmes en situation de handicap.
Oui, effectivement, ben, ça a été suite à plusieurs discussions de différents groupes de femmes qu'on est venu à la conclusion de vraiment faire un projet de recherche pour vraiment identifier les situations problématiques et aussi d'avoir des données également, parce que oui, ça touche les femmes en situation de handicap, mais ça touche l'ensemble de la population également aussi.
Parlez-moi là, des principaux constats qui ont été faits par le rapport. Là.
C'est sûr qu'au niveau de l'harcèlement dans les transports en commun aussi, il y a harcèlement également dans le transport adapté, qu'on pense que ça peut être sécuritaire, mais ce n'est pas toujours. Également aussi, les 90% des femmes se sentent stressées également de pouvoir se promener dans la ville en toute sécurité également, dans les tours de stress aussi, non seulement de savoir s'ils vont arriver à l'heure, à leur travail, à l'école ou autre, ou même juste aller faire leur épicerie c'est impossible aussi parce que le transport adapté dit juste un sac d'épicerie pour aller pour prendre le transport adapté. Donc, c'est très limitant pour les femmes qui souhaitent être mères, étudiantes, travailleuses et tout, qui ont plusieurs chapeaux également.
Oui, et ça a deux parts, en fait, le rapport. D'un côté, on dit il y a des obstacles physiques, hein, le déneigement qui est mal fait, les trottoirs qui sont pas adaptés, par exemple, donc, ou les autobus qui sont pas adaptés, tout ça. Donc, on a un aspect physique et on a un aspect humain où les gens sont mal formés, où il y a personnel qui est supposé aider aux personnes en situation de handicap et a des préjugés, où, par exemple, les femmes subissent la violence ou du harcèlement de la part soit des employés ou de la part du reste de la population.
Oui, effectivement, on parle beaucoup, on a misé beaucoup sur la formation, surtout pour les chauffeurs de transport adapté également, pour avoir un meilleur service à la clientèle aussi, parce que c'est souvent inquiétant, souvent les chauffeurs, s'ils ne sont pas des chauffeurs de minibus, reçoivent à peu près une demi-journée de formation. Donc, c'est très, très peu suffisant pour avoir un service adéquat pour une clientèle comme la nôtre.
Et également, là, vous l'avez dit, donc le transport adapté est quand même très limité. Là. Il faut le prévenir d'avance. On peut pas changer les heures. On peut attendre 1 heure, 2 heures que le transport adapté arrive parce que des retards qui sont fréquents. Il faut être disponible bien à l'avance pour prendre son transport. Donc, il faut sortir plusieurs minutes d'avance, voire une demi-heure à l'avance. Et puis, vous l'avez dit, il y a des règlements, là, comme le fait de devoir apporter seulement un sac d'épicerie, par exemple, qui font en sorte que c'est extrêmement limitant là, pour les femmes qui essaient, comme vous le dites, d'avoir une carrière, d'avoir une famille, de vivre normalement, finalement.
Oui, effectivement. Puis c'est sûr que le transport adapté, c'est dans le rapport, on peut dire qu'on, oui, il y a beaucoup de choses qui ne marquent pas, mais malheureusement, c'est le moyen qui est le plus direct, que les femmes trouvent le plus sécuritaire adéquat parce que, à comparer de tous les autres moyens à mobilité, donc surtout l'hiver, on va préférer prendre le transport adapté parce que c'est impossible au niveau de prendre le métro, l'autobus et autres transports également aussi. Et sans parler aussi de tout l'aspect logistique du transport adapté, mais on n'en parle pas assez, mais les femmes qui souhaitent amener leur enfant ou avoir plusieurs enfants dans le transport, c'est impossible.
Oui.
C'est juste un enfant en bas de 12 ans n'est pas considéré comme un accompagnateur. En haut de 12 ans, il est considéré comme un accompagnateur. Donc, tu vois que si l'enfant a plus que 12 ans, elle ne peut pas amener d'autres enfants. Donc, ça devient problématique à ce niveau-là aussi. Et c'est l'aspect aussi de le siège d'auto. Donc, la femme doit être capable de manipuler le siège d'auto, de l'installer. C'est pas le chauffeur qui le fait non plus. Et une fois rendu à la garderie, à l'école, souvent, pour rester sur place 1 heure pour avoir un autre transport pour aller à l'école ou au travail.
Oui, effectivement, donc ça cause toutes sortes de problèmes. On peut imaginer une femme qui a 2 enfants, on peut imaginer une femme qui veut aller porter ses enfants à la garderie et revenir à la maison, c'est impossible. Donc, effectivement, au niveau du transport adapté, il y a énormément de restrictions parce que, bien sûr, ils ont un budget limité, mais il y a également donc des décisions qui sont prises en amont sans vraiment consulter les besoins des femmes en situation d'handicap.
Malheureusement, tout projet, toute mesure, on est les dernières consultées. Soit dans des consultations ou dans d'autres projets, soit qu'on le sait à la dernière minute ou on ne sait pas par tête non plus. Donc, c'est un peu difficile de dire, OK, c'est, il faudrait, avez-vous pensé à ça, qu'on pourrait faire ça autrement, alors qu'on est toujours en train de recorriger et de revoir que vous vous rendez au bout de
Et pourquoi on parle des femmes en situation de handicap particulièrement? En quoi elles sont plus à risque comparativement aux hommes en situation de handicap?
Ben, c'est sûr que selon les sondages, les femmes sont plus majoritairement au niveau du salaire plus bas aussi, beaucoup plus de responsabilités et de charges également. Puis souvent, on s'entend que les hommes aussi ont plus de plus grands moyens, donc on va dire qu'ils vont avoir plus de moyens pour pouvoir avoir un auto ou un aspect pour pouvoir se déplacer plus facilement à ce niveau-là.
Et j'imagine que le harcèlement également est plus présent au niveau des femmes en situation de handicap que des hommes en situation de handicap.
Oui, effectivement, que ça soit dans la rue, que ça soit dans le transport comme partout, que ça soit psychologique, que ça soit physique. Donc, il y en a de toutes les sortes aussi.
En terminant, Mme Maude Massicotte, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, citoyenne, là, pour les auditeurs, les auditrices, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à cause?
Ben, aller sur le site de la table de groupe de femmes pour aller justement télécharger notre rapport. C'est quand même très bien détaillé, c'est très puis les faits saillants sont faciles à recourir aussi. Puis aussi, si vous pensez à des projets, des choses comme ça, de penser de nous inclure également aussi. Et si vous voyez une femme en difficulté ou autre, allez y porter assistance aussi, de toujours lui demander c'est quoi son besoin et si elle a besoin d'aide avant de prendre action pour elle dès le départ.
Oui, ça c'est important de le dire, donc de vraiment écouter les besoins et d'être à l'écoute plutôt que de prendre les devants quand quelqu'un est en difficulté. Je pense que c'est important parce que parfois les gens veulent bien faire, mais ne répondent pas aux besoins de la personne.
Non, exactement. Puis peut-être souvent, on va peut-être nuire plus que d'autres choses.
Effectivement, ça arrive là, que les personnes, même s'ils veulent bien faire, là, nuisent à la situation. Là. Donc, merci, Mme Maude Massicotte, directrice de Défi sans limite et membre de la table des groupes de femmes de Montréal. Merci beaucoup de votre travail.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous.